Merci d'écouter RFI, il est 3h à Paris, 1h en temps universel.
Mathis Limano.
Pas de présidence, pas de participation. Le Rwanda annonce quitter la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La présidence de l'organisation devait revenir à Kigali. Elle a été reportée sur fond de tension avec la RDC. L'ONG du bateau en route pour Gaza annonce à l'instant que la marine israélienne a arraisonné le navire, c'est-à-dire qu'il a été intercepté. Un contrôle est en cours. À suivre aussi l'offensive russe sur la région ukrainienne de Dnipropetrovsk. Et puis, un premier petit pas de la France pour protéger ses aires marines, alors que s'ouvre ce lundi la conférence des Nations Unies sur l'océan. Le Rwanda claque la porte de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Kigali déplore l'instrumentalisation de la CEAC par sa rivale, la République démocratique du Congo. En cause, le report d'un an de l'accès du Rwanda à la présidence tournante de l'organisation. Report acté lors du sommet ordinaire de samedi à Malabo. Alors, quelles conséquences pour le Rwanda? D'après Thierry Vircoulon, chercheur associé au Centre Afrique de l'IFRI, cela ne coûte pas grand-chose à Kigali de quitter l'organisation.
Parce qu'il appartient à d'autres organisations régionales aussi, et surtout parce que la CEAC lui apporte probablement rien et est une organisation régionale qui est assez largement une coquille vide, qui n'a ni réussi dans son mandat économique, donc de coordination des économies de la région. On lui a donné plus tard un mandat politique, un mandat de paix et de sécurité et donc de gestion des différentes crises dans la région Afrique centrale. Et on voit bien que aussi bien au plan de la coordination des économies de la région que de la gestion des conflits dans la région, elle a échoué, puisque conflits dans la région, elle n'en a résolu aucun. Ils ont cessé de se multiplier. Et le dernier en date important, c'est celui entre Kinshasa et Kigali, dans lequel la CEAC ne joue absolument aucun rôle.
Le chercheur à l'IFRI Thierry Vircoulon avec Amélie Tullet. La liaison a été perdue avec le Madeleine. L'ONG du bateau en direction de Gaza annonce à l'instant qu'il a été arraisonné par l'armée israélienne, c'est-à-dire qu'il a été intercepté. Un contrôle est en cours. À son bord, l'eurodéputée Rima Hassan et la militante suédoise Greta Thunberg. L'équipage voulait défier le blocus israélien et accoster à Gaza. Il a été kidnappé par les forces israéliennes, dénonce l'ONG. Par ailleurs, ce nouveau drame dans la bande de Gaza autour de la distribution d'aide. 5 personnes ont été tuées hier alors qu'elles venaient récupérer des vivres. Ces dernières 24 heures, au moins 104 personnes sont décédées dans l'enclave d'après la défense civile. Alors que les négociations de paix sont dans l'impasse, l'armée russe lance une offensive contre la région de Dnipropetrovsk, une première en plus de 3 ans de guerre. Pas de commentaire à ce stade des autorités de Kiev. Seul un commandement du sud du pays assure que les soldats ukrainiens tiennent le front. Alors que sait-on vraiment de cette attaque? Peut-on réellement parler d'une offensive? Écoutez l'avis d'Ulrich Bouna, analyste géopolitique joint par Arim Lipold.
Finalement, on savait que les troupes russes étaient très proches de la frontière de Dnipro, de l'oblast de Dnipropetrovsk, donc qui est finalement collé à celui de l'oblast de Donetsk. L'endroit où ça se situe, c'est un petit peu à une trentaine de kilomètres au sud de Pokrovsk, donc qui est l'un des nœuds principaux de résistance ukrainienne dans cette partie du Donbass que les Ukrainiens contrôlent encore, qui se situe donc un peu au sud du Donbass. Et donc effectivement, on savait que les Russes essayent de, grosso modo, contourner Pokrovsk par le nord et par le sud. Donc effectivement, ils ont franchi la frontière entre l'oblast de Donetsk et celui de Dnipro. D'un point de vue militaire, si tu es tout à fait honnête, ça change pas grand-chose. Hein. C'est une limitation administrative plus que militaire. En revanche, effectivement, les Russes l'utilisent comme un symbole pour montrer que leur avancée est inexorable. Donc on est, à mon sens, là, plus finalement sur une opération un peu plus de communication qui permet aux Russes de montrer au monde entier, et notamment à leur population, qu'ils avancent et que c'est inexorable. Mais encore une fois, c'est d'un point de vue militaire, ça change pas grand-chose.
Et l'annonce de cette attaque intervient alors que l'échange massif de prisonniers de dépouilles prévu ce week-end entre les deux camps a été reporté à la semaine prochaine. Renault confirme avoir été contacté par le ministère français des armées. Le constructeur automobile pourrait s'allier à une PME tricolore de la défense pour produire des drones directement en Ukraine. Aucune décision n'a encore été prise, indique la direction de Renault. La présidente du Mexique demande à Washington de ne pas traiter les migrants comme des criminels. 35 ressortissants mexicains ont été arrêtés ces derniers jours dans des opérations de ratissage à Los Angeles, la deuxième ville des États-Unis, où des militaires de la garde nationale ont commencé à se déployer sur ordre de Donald Trump. Dénonçant l'anarchie dans la ville, le président entend rétablir l'ordre après de violents affrontements entre policiers et manifestants opposés à la politique migratoire de la Maison Blanche. Le déploiement de la garde nationale, un abus de pouvoir alarmant, dénoncent les gouverneurs démocrates. Et puis, en Colombie, une centaine d'enquêteurs cherchent à identifier les commanditaires de l'attentat contre Miguel Uribe. Lors d'un meeting, un individu a ouvert le feu sur le candidat à la présidentielle colombienne. Touché deux fois à la tête, Miguel Uribe se trouve dans un état critique, d'après les médecins. C'est une demande de longue date des ONG environnementales et des scientifiques. La France, qui accueille à partir de ce lundi la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, doit montrer l'exemple quant aux aires marines protégées, ces zones à l'écosystème fragile et où le chalutage particulièrement destructeur est toujours autorisé. Aujourd'hui en France, seuls 0,1% de ces zones sont réellement interdites à la pêche industrielle. Emmanuel Macron veut les passer à 4%, du mieux. Lucille Gimbert met les ONG et chercheurs restent sur leur faim.
D'ici fin 2026, les zones où les fonds marins sont ou seront fortement protégés représenteront 4% des eaux françaises près de l'Hexagone, contre 0,1% aujourd'hui, promet la ministre de la Transition écologique. Agnès Pannier-Runacher assure aussi que toutes les activités ayant un impact sensible sur les fonds marins, comme le chalutage et l'extraction minière, seront interdites. Une accélération sans précédent de la protection forte, d'après l'exécutif. Mais scientifiques et ONG en doutent fortement. D'abord, ces annonces ne concerne que les fonds marins. La protection des espèces marines qui vivent entre le sol et la surface des océans est renvoyée à des concertations locales déjà en cours, où chaque pression humaine est examinée au cas par cas. Pour les ONG comme Bloom ou Greenpeace, le gouvernement français fait même un tour de passe-passe en annonçant la protection de fonds où le chalutage est soit déjà interdit, soit pas ou peu pratiqué. 4% sans définir ce qu'est la protection forte, c'est vraiment pas glorieux, critique pour sa part le scientifique spécialiste des écosystèmes marins Philippe Curie. On ne fait pas ce qu'on dit qu'on devrait faire, déplore ce chercheur de l'IRD, et la nature n'attendra pas, beaucoup d'espèces vont continuer à disparaître.
Dans ce contexte, le Royaume-Uni vient de dévoiler un plan visant à étendre l'interdiction du chalutage de fond à plus de la moitié des aires marines protégées d'Angleterre, une pratique destructrice pour les fonds marins, souligne Londres. Quelques 1600 personnes ont défilé dans le silence hier à Puget-sur-Argent, cette commune du sud-est de la France où Hicham Mirawi, coiffeur tunisien d'une quarantaine d'années, a été tué à la fin du mois de mai. Un crime raciste d'après la justice. Proches de la victime et simples habitants ont défilé du salon de coiffure où travaillait la victime jusqu'à la mairie. C'est un reportage Radio France, Alain Gastal.
Sur la vitrine du salon de coiffure où officiait la victime, des mains anonymes ont écrit sur des post-it « Hicham, on ne t'oubliera pas, tes sourires, ta gentillesse, repose en paix ». Michael était un voisin de la victime, Antoine, un de ses clients.
J'habitais au-dessus de chez lui, c'était une personne agréable, toujours serviable et on n'avait pas de soucis avec lui. C'était une bonne âme.
Hicham, il ne méritait pas ça, quoi. Moi, chaque fois, il me disait tout le temps que j'allais au coiffeur.
Et vous connaissiez aussi celui qui l'a tué ?
De vue, un ancien légionnaire. On ne tire pas sur un mec, c'est une balle, pour une chamaille.
C'est du salon de coiffure que la marche est partie. Elle se voulait résolument apolitique et silencieuse. Pas de banderole, pas de slogan, quelques discussions quand même, comme celle-ci entre Majid, ami d'Hichem et organisateur, et Fatia, qui aurait voulu que soient plus clairement dénoncées les idées racistes à l'origine du meurtre.
Tout le monde le connaît, ce monsieur.
C'est un tueur,
oui.
Il est raciste.
Tout le monde le connaît, même les policiers. Ils le connaissent.
Madame, hein. Vous avez entièrement raison. On est tous révoltés. Moi, je le connais, c'est un très bon ami à moi.
Voilà, c'est pas normal.
Je suis brûlé de l'intérieur.
C'est pas normal.
Vous mettez sans son obas, s'il vous plaît. Justice sera faite.
Un seul incident très bref, quand Sébastien Delogu, le député France Insoumise de Marseille, a été pris à partie par quelques marcheurs quand il est entré dans le cortège avec son écharpe tricolore. Il l'a finalement enlevé avant d'être applaudi.
À la mi-journée, 450 personnes se sont aussi rassemblées à Marseille en souvenir du Tunisien. Les Portugais s'emparent de la Ligue des Nations dans une finale 100% ibérique. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont battu les Espagnols tenants du titre au tir au but. Plus tôt dans la journée, l'équipe de France s'est fait une place sur le podium en battant l'Allemagne 2-0. Et puis, Roland Garros, c'est chez lui. Pour la deuxième année consécutive, Carlos Alcaraz s'est adjugé le tournoi parisien du Grand Chelem dans une finale dantesque. masque, l'Espagnol s'est finalement imposé en 5-7 contre le numéro 1 mondial Yannick Sinner. Un duel qui a duré 5h29, établissant ainsi un nouveau record pour une finale de Roland-Garros. RFI, les 3h10 à Paris, 1h10 en temps universel.